Et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est une voiture piégée qui aurait ciblé un convoi américain ce matin, patrouillant tout près de l'ambassade des États-Unis dans le centre de Kaboul en Afghanistan. 8 morts et 25 blessés. Les victimes sont des civils pour la plupart. Et si cette attaque n'a pas été revendiquée pour l'instant, elle intervient quelques jours après l'annonce par les talibans du lancement de leur offensive du printemps. Offensive où ils ont plus particulièrement menacé de s'en prendre aux troupes étrangères présentes dans le pays. Ne jouons pas la démocratie à la roulette russe, lance Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, ce matin dans les pages de Libération. Mon devoir, c'est de dire que c'est pas pareil. Emmanuel Macron et Marine Le Pen expliquent de son côté Valérie Pécresse, présidente Les Républicains de la région Île-de-France. Esquisse d'un front républicain, prise de position et tentative de convaincre les indécis ou les abstentionnistes. Avant le débat ce soir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les deux finalistes de l'élection présidentielle se retrouvent pour un unique face-à-face avant le second tour de dimanche. Rendez-vous, débat télévisé à partir de 21h sur TF1 et France 2. Le Canard enchaîné le révèle lui-même dans son édition d'aujourd'hui. François Fillon porte plainte contre l'hebdomadaire satirique. Un rédacteur en chef et un journaliste du Canard sont convoqués le 11 mai prochain par la police, mais le candidat éliminé du premier tour de la présidentielle n'attaque qu'une petite partie des faits évoqués par le Canard enchaîné sur les emplois possiblement fictifs de son épouse Pénélope Fillon. En l'occurrence, son premier emploi public à l'âge de 25 ans, si l'on en croit le Canard. François Fillon se fonde sur l'article L97 du Code électoral qui réprime la propagation de fausses nouvelles ou de bruits calomnieux ayant pour effet de détourner les suffrages. Une infraction passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Une infraction rarement poursuivie devant les tribunaux. Écoutez l'analyse de Pascal Jean, professeur de droit constitutionnel à Sciences Po Bordeaux.
Il faut savoir tout d'abord qu'il y a très peu de jurisprudence sur cette disposition du code électoral. Les seules décisions que l'on peut appeler, j'allais dire, pour interpréter l'article 97, ce sont des cas où véritablement un élu ou un candidat a diffusé des informations extrêmement mensongères. Et j'ajouterai que le juge tient compte de la possibilité également de réplique de la part du candidat. Non seulement François Fillon a eu le temps de répliquer, ça c'est le premier point, mais le second point qui me paraît moi le plus déterminant, c'est qu'en l'espèce, certes, il y a eu une information émanant de la presse, mais il y a eu surtout une instruction publique de la part du parquet national financier. Et à partir de ce moment-là, on peut considérer que l'information qui a été délivrée par ce journal, donc le Canard enchaîné, n'était absolument pas calomnieux, encore moins mensonger, par mesure où ça a été relayé non seulement par l'autorité judiciaire, et aujourd'hui, c'est entre les mains d'un juge. Donc là, on est vraiment dans un cas tout à fait nouveau et qui relève en réalité plutôt de la loi sur la presse. Et on ne voit pas comment un juge pourrait donner le moindre crédit à une requête fondée sur l'article 97.
Pascal Jean, professeur de droit constitutionnel à Sciences Po Bordeaux, il répondait à Florence Turme. On vient de l'apprendre, Veolia remporte 3 contrats en Chine pour 864 millions d'euros. Le groupe de gestion de l'eau, par ailleurs condamné à 2 reprises pour avoir coupé l'eau ou réduit le débit de la fourniture d'eau dans 2 logements en France. C'est ce que l'on a appris également ce matin auprès de l'association France Liberté, partie civile dans ces dossiers. 19 000 euros d'amende dans l'un des cas qui concernait un homme handicapé. Sécheresse et nappes phréatiques au plus bas dans plusieurs départements français au moment où les cultures sont en pleine pousse. Les agriculteurs s'inquiètent après le mois d'avril le plus sec depuis 30 ans, un printemps qui s'accompagne parfois de gel. France Agrimaire prévoit d'ores et déjà des récoltes en baisse de 5%, notamment pour les céréales, et ce après une année déjà catastrophique. Le changement climatique affecte donc de plus en plus le monde agricole qui s'interroge sur les adaptations possibles. Luc Smerset de la FDSEA de l'Oise, interrogé par Anne Lorchouin.
On s'aperçoit depuis 5 ans des phénomènes beaucoup plus marqués, des longues périodes de sécheresse ou d'excès d'eau. On a la même chose avec le gel, des épisodes qui sont décalés, des choses qu'on n'était pas habitués, notamment au nord de la Loire. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des vraies solutions d'anticipation. On peut stocker l'eau l'hiver qui tombe pour pouvoir l'irriguer puis éviter de prendre l'eau dans les nappes. Ça serait quand même du bon sens. En Espagne, ils arrivent à stocker jusqu'à 6% de la pluie qui tombe en hiver et puis d'utiliser. En France, on sait qu'on stocke moins moins de 1% aujourd'hui de l'eau qui tombe en hiver. Et puis après, il faut qu'on se dote d'outils pour se protéger. Il faut aussi peut-être que nous, de notre côté, on fasse travailler les instituts techniques. Moi, je vois là, nous, on a de la luzerne. Bon, c'est des plantes qui résistent mieux à la sécheresse et qu'on récolte 4 fois dans l'année. Donc, du coup, ça permet de tamponner. Si on fait une mauvaise récolte, les 3 d'après, on peut compenser. Il y a peut-être aussi quelques nouvelles cultures comme ça qui pourraient peut-être avoir un intérêt pour maintenir l'autonomie, notamment en élevage, pour éviter d'avoir à acheter du fourrage ou des choses qui coûtent très cher.
Lux Merced de l'FDSEA de l'Oise. Le temps de ce mercredi 3 mai, de la pluie sur la moitié nord de l'Hexagone, du soleil au sud et des températures comprises ce matin entre 3 et 10 degrés en général. Cet après-midi, il fera entre 11 et 15 degrés sur la moitié nord du pays, de 14 à 20 au sud. C'est la fin de cette édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Antoine Mercier.